Vous écoutez
RMC. RMC.
15h-18h.
Le Super Moscato Show.
Il est 15h06, on est dans le Super Moscato Show, on est sur RMC bien entendu, comme tous les jours. On est là de 15h à 18h, vous le savez parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, on vous en remercie. Vous écoutez aussi le podcast qui tourne fort, j'ai envie de dire, mais ça marche. 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, vous êtes 6, 7 millions tous les mois à nous écouter. On va monter à 10, on écrase les grandes gueules, on les pingarins, on les broie, on les humilie, c'est terrible. On est avec... Oh, la petite Bartole, comment elle va?
Ça va très bien, mon petit Vincent, et toi?
Qu'est-ce que tu dis?
Je sens que tu es en pleine forme.
Oui, je suis en pleine forme.
Je sens que tu débutes cette semaine au taquet.
Parce que je sais que t'es là. Je sais que t'es là, tu vas booster, tu vas monter au filet, tu vas faire des revers, tu vas filer des grands coups droits. Et j'espère un peu dans la bouche d'Éric
Dans Guimico. La tronche. Bisous Marion, salut Vincent, salut. Tu devais pas m'envoyer un numéro, toi,
si,
trompette.
Si, mais j'ai du mal
à te l'envoyer. Tu m'appelles le matin, t'as envoyé, bim, jamais.
Je vais t'envoyer.
Toi, tu sais quoi?
Oui.
Tu commences à devenir Jojo pour de bon comme moi. Tu oublies de faire les trucs.
On n'aime pas être seul à y voir Alzheimer. Donc on aimerait que ces petits copains
aussi
soient
dans la mémoire. Ma foi, quand on se promènera dans la. Il a cherché là où on fait pipi, ben, elle sera deux.
Mais monsieur, mais qui vous êtes?
Mais qui vous êtes,
qui vous êtes On a travaillé ensemble.
Exactement. Dis-moi, Vincent, oui. Tu vois, ce matin, j'ai quand même pris conscience par deux fois qu'on est en crise en France quand même.
Oui.
Parce que les gens n'ont même plus les moyens d'acheter l'option clignotant sur la voiture.
C'est vrai.
Ah ouais, ça c'est là où on manque.
À Marseille, ça fait 500 ans que vous êtes en crise sur le clignotant. Ah ouais, quand même.
Je vais y mourir deux fois ce matin parce que les mecs, maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de clignotant sur les voitures. Les mecs, dernier moment, bim.
C'était un scooter.
Scooter.
Non, mais balayage visuel, mon poulet. Scooter, balayage visuel.
Oui, balayage visuel, oui. Mais gauche, quand le mec, arrive en face, qui
dès
te tourne le doigt,
moi, dès que j'arrive, tu vois une femme au volant, crac, tu ralentis, tu te mets derrière. Tu doubles plus. Tu vois la petite Bartole, tu te mets derrière. Elle va faire une connerie. Bon, elle, tu la reconnais, elle a une Bentley, c'est une tennisman. Mais bon, tu te mets derrière. Pas de couillon, là, Adrien.
C'est comme vous, on va reprise, hein, pour ceux qui découvriront l'émission.
Oui, bien entendu. Mais quand même de l'humour, mais. Est-ce que ta soeur est conduit bien? Non. Est-ce que ta mère est conduit bien? Non. Au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. Ta femme est conduit bien? Non, elle n'a plus le permis. Allez, vas-y, Adrien.
Question moyenne que du jour. Hein. Salut Marion, salut Eric, salut Pierrot, salut Vincent. Ouais. Question moyenne du jour. Elle n'est pas si simple que ça, Vincent. Elle pourrait paraître simple si on ne réfléchit pas, mais pense aux différents tiroirs qu'il y a dans la commode.
Oui.
Toujours.
Ouais, non, mais là, pose pas qu'à Tia Marion, elle va nous humilier.
Qui a le plus de chances de marquer un but à la prochaine Coupe du Monde de foot? Une semaine d'équipe de France, là. Oh, prochaine Coupe du Monde, Olivier Giroud ou Théo Hernandez?
Giroud.
C'est-à-dire Giroud.
Yassine de Giroud.
Yassine de Giroud. Pourquoi n'est-elle pas simple? Giroud, pas sûr du tout d'être à la Coupe du Monde de foot, alors que Théo Hernandez.
Et la dernière fois, il n'a pas marqué un but en plus.
Et la dernière Coupe du Monde qu'il a joué, Giroud, il n'a pas marqué un seul but.
Moi, j'ai regardé la télé. La dernière fois, il marque des buts quand même.
Et Théo Hernandez est sûr d'aller à la Coupe du Monde s'il n'y a pas de blessure. Et lui, il marque.
On verra. Mais pour moi, tu dis Moi, je dis Giroud. Pour là, tu me dis qu'il y aura, comme il y aura Benzema et Mbappé, il n'y aura pas Giroud. Moi, je dis il y aura Benzema, Mbappé et Giroud.
Voilà. Et tous titulaires avec
Griezmann depuis le temps, je vous l'ai dit, les scopries de Neymar, que Mbappé va rester,
Laurent
Blanc de Bordeaux, il ira d'abord, mais je vous ai tout dit, tout. Bon, alors si vous continuez, mais allez-y, parce que vous voulez.
Alors vous répondez quoi, Champion?
Ah, je pense que Théo Hernandez va marquer un but.
Vous croyez pas?
C'est non, plus évident pour lui que pour Giroud.
Moi, je pense qu'il va marquer. Il est très fort, ce petit. Il est en pleine forme. Bon, là, il est blessé, mais.
Eric?
Oui, ils sont tous très bons en pleine forme, mais il est blessé. C'est ça. Vous en déconnez. On a la plus belle équipe de blessés du monde.
Giroud traverse une très bonne période.
Oui. On a tous des steaks hachés.
Non, mais moi, j'ai perdu. Moi, je reste sur mon raisonnement.
La théorie d'Imeco.
Qui vaut ce qui vaut. Voilà. Mais je pense que s'il y a Karim, s'il y a tout le monde, il appellera pas.
Donc, Hernandez. Et Marion?
Je me tâte. Là, j'entends tous vos arguments, j'ai du mal à trancher.
Pour une fois, la prise à dépourvu, tu as vu?
Elle n'a pas travaillé,
elle ne connaissait pas.
Tu vois, quand côté des patrons. Je pense que Giroud va marquer.
Mais pourquoi? Parce que
Ils se Giroud. Ah, puis Giroud, c'est un beau mec, il est grand.
Et sur la photo,
t'en as besoin.
Non, mais il est bien, il a plein de forme.
Ah, puis sur la photo, t'en as besoin. Là-dessus, t'as pas.
Ah ouais, mais alors,
mais ça, il a même pas 50 ans.
Si
tu veux le mettre à la retraite.
Si c'était une question de photo, mais ça, tu aurais jamais joué, toi, comment on fait?
Ah, est-ce que toi, tu te trompes? tu te prends pour même
toi,
ton œil maquillé sur le côté. Non, mais quelle honte, quoi, tu nous as fait honte. Honte, pas qu'elle avec ton sponsor, ton RMC, Radio Monte Carlo à l'époque, sur le maillot. C'est affreux.
Allez, Vincent, le programme de l'après-midi. Affreux. Nice, Pochettino, est-ce la bonne idée? On va vous donner des infos tout de suite, des infos RMC Sport à 16h. Mbappé peut-il porter les bleus seul?
Oui.
Vincent règle le problème. Et à 17h, va-t-on voir le grand Messi sous le maillot du PSG? Tout ça, c'est avec vous, bien sûr, au 32-16 et Twitter à chaque RMC Live. Apostrophe Adrien.
Oh, ça va vous rappeler des souvenirs. On va parler de l'éducation nationale des lycées en France.
Ah oui.
Les lycées.
Oula.
C'était très peu de souvenirs.
C'est une belle période, c'est quand même.
Lycée technique. Tu allais faire une semaine à l'école, trois semaines chez le patron.
Et puis dans le
cas pour faire les fromages.
Avec le des milons.
Pour faire les fromages.
Touche, on a gagné des week-ends pour deux personnes dans les casinos.
Et au
à 18 ans. Touche, vous envoyez Kikadi par SMS au 732-16. Et tout de suite, direction Nice, où la vie est belle.
Ah oui.
RMC, le Super Moscato Show.
Bonjour Vincent, je te propose que nous partions à vélo découvrir la promenade des Anglais.
Ah, j'ai fait oui, bébé.
En compagnie de notre guide, nous partons en vélo bleu loué 1,50€ la journée. Idéal pour profiter du bord de mer.
Déjà, t'as quelque chose de beau, quoi. De... Ah, merde, je parle même pas du paysage, quoi. Les gens sont bien ici. Y a pas... C'est pas gavé, il y a de l'air.
Tout aussi incontournable, la visite du vieux Nice. Ses ruelles étroites, le cours Saleya et son marché aux fleurs.
Pour moi, c'est le top.
Ainsi s'achève notre week-end ensoleillé à Nice.
Mais j'étais qu'avec des riches.
Rien ne va plus à Nice, Vincent, qui n'en peut plus de sombrer et qui va encore changer. Donc après avoir changé d'effectif, après avoir changé de coach, eh bien de nouveau, il va y avoir un nouveau technicien. A priori, Lucien Favre est déjà menacé. Le gym pense à Mauricio Pochettino, ouais. Rends-toi compte. Mmh. Est-ce la bonne idée, selon vous, 32-16 et Twitter, hashtag RMC Live, les infos RMC Sport de Maxime Tilliette. Bonjour Maxime, notre correspondant à Nice.
Oui. Bonjour le super Moscato Show.
Alors, est-ce qu'on peut dire que le sort de Lucien Favre est déjà tranché?
Et je crois bien oui, hein, parce que les deux parties sont proches d'un accord pour mettre fin à leur collaboration. Les dirigeants niçois, à savoir le président Jean-Pierre Hébert et le directeur des sports de chez Ineos, Dave Brailsford, ont longtemps parlé après la défaite de dimanche contre Angers, celle de trop pour un Lucien Favre qui ne s'attendait pas à un tel chantier en revenant ici et qui tâtonne hein, depuis le début de la saison. Il a essayé plusieurs systèmes sans jamais vraiment convaincre. Il semble même parfois dépassé hein, dans ses propos en conférence de presse. Et puis le groupe n'adhère pas spécialement à ses méthodes et son discours. En revanche, il est victime, il faut le dire aussi, d'une absence de stratégie totale cet été. L'effectif a été chamboulé dans les dernières heures du mercato. D'ailleurs, certains joueurs sont arrivés sans l'accord de Favre. Alors, une réorganisation est en cours au club, avec notamment un nouveau directeur général qui n'a pas encore pris officiellement ses fonctions, mais fait déjà le tour des bureaux depuis quelques semaines. Un directeur sportif qui doit aussi arriver. Et il faut également désormais un nouvel entraîneur qui pourrait être Mauricio Pochettino, en effet.
Mais ouais.
Alors, c'est le numéro...
Ce club de Nice, c'est parti en sucette, mais grave. C'est comme le gosse, quand il réussit pas à l'école, il dit c'est à cause de la maîtresse. Alors tu changes d'école, puis à l'école d'après, il réussit pas non plus. C'est ça les clubs maintenant. Ils changent d'entraîneur, C'est des joueurs.
Belle leçon de vie que tu me donnes.
Mais bien sûr, mais bien entendu.
Ça, ça le vécu.
Écoutez, Eric, il change. Bon, pas d'école, mais il change. C'est toujours la faute. Voilà, vous voyez ce que je veux dire.
Et après,
au bout d'un moment, il s'aperçoit qu'il avait la même à la maison. Donc c'était pas la peine de changer, de faire des histoires. Ça revient toujours au même.
Pochettino, Vincent, c'est curieux, non? C'est une bonne idée pour toi ou pas, Pochettino?
Oh, c'est une bonne idée. Surtout, je suis atterré par ce club qu'on nous présentait, le concurrent du PSG, voire de Lyon, de Marseille. Il y a deux ans, avec Radcliffe qui s'aperçoit maintenant qu'il y a des oursins dans les poches qui ne sortent pas une thune. Et puis, la gestion de ce truc. Des histoires. Galtier, tu dis Galtier quand même, là, c'est prometteur. Rouf, pim, boum, bam.
Tout part de lui, hein, le bazar d'ailleurs.
Oh, ça, oui, bah, mais ça c'est marseillais, ça il peut pas s'empêcher, tu vois.
Non, mais ça ouvre les yeux sur ce qui s'est passé la dernière.
Mais on verra le PSG dans 6 mois, tu verras le chantier que ce sera. Et donc ça part en sucette, il se prend la tête avec un autre, là, le directeur technique. Là ils prennent Lucien Favre qui connaissait. Et là ça va plus parce que maintenant Lucien Favre, un mois après, il s'aperçoit qu'il est victime de la mode. Il est plus à la mode. Donc, il est plus là. Il ne le savait pas avant, ça. C'est géré à la mort moelleuse. On te met un manager qui fait du vélo. Le mec, il arrive à mini vélo. Il arrive à mini vélo à l'entraînement. Il comprend que là, il n'a jamais vu un joueur de foot de sa vie. On le met là. Non, mais sincèrement, moi, je suis supporter niçois. J'y vais plus au stade. J'ai dit, attendez, vous, tant qu'il n'y en a pas un qui connaît quelque chose, je ne remets plus le pied au stade. Parce que là, c'est une gabegie. C'est n'importe quoi. Alors, c'est pas Messou. S'il va le brûler de l'oseille, il le brûle. Là, Pochettino, vu ce qu'il a fait au PSG, alors je sais qu'il a eu des réussites auparavant.
À Tottenham.
Mais là, je pense qu'il n'est pas mauvais. Après, au PSG, c'est quand même plus compliqué.
C'est des Anglais, c'est un manager de première ligue, ça peut les mettre en confiance.
À la limite, c'est pas le mauvais choix. Mais le mauvais choix, c'est tout.
C'est le bazar.
Et Galtier, et le manager qui se prennent la tête, et Radcliffe qui ne met pas une thune, et Lucien Fabre qui, au bout d'un mois, boum, dépassé, bonsoir Clara, il pleut plus à la direction. Mais ça, il ne le savait pas avant, il avait déjà entraîné Nice. Et là, on va chercher Pochettino. Bon, écoute-moi, encore, le navire est à la dérive.
Eric.
Donc Nice va gagner la Ligue Europa Conférence, c'est ça, la fin de l'année. C'est ça, ouais. Parce que tous les entraîneurs.
On est curieux de voir ça, justement.
Tous les entraîneurs du PSG, l'année après, ils gagnent un titre européen. Bon, pas gagner la Ligue des Champions, mais les pauvres niçois. Ouais. Non, mais par rapport à ce que tu disais, Adrien, preuve que le mal n'est pas que de cette année, que le mal est récurrent, puisqu'il y avait déjà eu une sonnette d'alarme l'an dernier à la trêve hivernale de Christophe Galtier.
Mais qui réclamait des renforts.
Qui réclamait des renforts, qui sentait une certaine inertie, qui avait soi-disant lui aussi des problèmes avec le vestiaire. Alors c'est bizarre parce que Lucien Favre, qui est un entraîneur, bon, vous l'avez vu, il est rond quand même, comme je sais pas comment, tu vois, c'est pas, il est pas connu,
il est pas
pour
agressif,
fouetter,
ouais.
Il est pas connu pour
c'est
fouetter
pas le
ses
style Galtier, il est moins énergique.
Voilà. Et lui aussi a des problèmes avec le vestiaire. Donc le mal est profond. Alors après, Vincent l'a dit, c'est plus facile de changer un entraîneur que 20 joueurs, surtout quand tu as fait des conneries dans le recrutement. Mais Pochettino, il a l'avantage de en tout cas, les dirigeants ou les actionnaires ont l'avantage de le connaître par rapport à ce qu'il a fait en Angleterre. D'après moi, ça doit un peu plus leur parler que, je pense, que Lucien Favre. Il savait même pas qui c'était, moi, les mecs. Hein. Comment il s'appelle, Brailsford, là, c'est ça?
Mais River,
Dave Brailsford.
D'après moi, quand on lui a parlé de Lucien Favre, il a appris en le rencontrant la première fois.
Oui, c'est River qui l'a fait le chercher.
Voilà. Le nom, il croyait que c'était un joueur d'accordéon.
Lui.
C'est
l'ancien mari du Vatorner.
C'est le frère de Lucien Favre. Ah, mais c'est le frère de Nice, enfin,
bon, c'est normal.
Et donc voilà, du coup, bon, ils vont chercher quelqu'un qui connaisse. Ils pensent que la solution peut venir du changement d'entraîneur. Voilà, en disant que le mal est plus profond, je crois qu'on a répondu à la question. Maintenant, dire que Pochettino peut justement se relancer rapidement dans un club avec des ambitions moindres que le PSG, bien sûr, mais où il peut se refaire une santé, parce que quand tu sors de Paris, tu es toujours un peu sur les rotules, c'est un bon challenge pour lui. Après, qu'il restait sur le marché finalement. Si tu veux, si tu as des ambitions un peu supérieures,
qui pète un peu pour Nice, qui pète un peu pour Nice,
avec Pochettino, il aurait pas que ça, surtout Tourelle, il aurait pas été intéressé par Nice.
Non, voilà, qui peut y aller, qui pète un peu.
Bonne idée pour Nice, Pochettino.
Mais de toute façon, il faut changer quelque chose. Là, pour l'instant, ils font un début de championnat qui est quand même assez catastrophique. Ils sont 13e, ils ont seulement 2 victoires en 8 matchs. Ils ont que 2 points sur 6 en Conference League avec un groupe largement à leur portée. Deuxième plus mauvaise attaque du championnat avec seulement 5 buts marqués. Ils sont dans une trêve internationale. S'il n'y a pas un changement maintenant, ils ne pourront pas le faire et ça va partir à la dérive d'ici la fin de la saison. Donc, s'il faut faire quelque chose, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Après, pour Pochettino, effectivement, Tottenham, toute proportion gardée, bien évidemment, ça ressemble un petit peu à Nice en Ligue 1, c'est-à-dire un club, effectivement, moins de stars, moins de pression, beaucoup moins de pression qu'au PSG. Donc, je pense que Pochettino, elle a eu l'habitude de gérer ce genre de staff, et on l'a vu, il a quand même fait du très bon travail à Tottenham, il les a amenés en finale de Champions League, il les a ramenés plusieurs fois dans le top 4 de Première Ligue. Donc, je crois qu'il est capable de redresser là-bas. Mais là où je suis complètement d'accord avec vous, c'est que le mal est nettement plus profond que ça à Nice, et qu'il va falloir vraiment s'y atteler pour la saison prochaine. Mais en revanche, de laisser comme ça totalement le club partir à la dérive sur cette saison, je pense qu'ils ont raison de réagir et d'essayer de changer quelque chose. Et comme tu peux pas changer complètement l'effectif entier des joueurs, t'es obligé de taper sur l'entraîneur, malheureusement. Mais c'est certain qu'il fallait voir ça déjà auparavant. Pourquoi rappeler Lucien Favre? J'ai toujours pas compris non plus. ils ont quand même un énorme budget. C'est quand même pas un petit budget, Nice. Donc ils ont les capacités financières. On a l'impression qu'ils prennent toujours les mauvaises décisions. C'est ça qui est un petit peu agaçant.
Ils ont un bon budget. Un très bon budget pour la Ligue 1. Il y a un décalage entre ce qu'on attendait de la fortune de Radcliffe et en fait ses intentions. Et je vous rappelle toujours que lui, il n'a jamais dit qu'il allait cramer la caisse. Il a dit, moi, je vais y aller piano-piano, progressivement. Je ne vais pas acheter des joueurs à 100 millions d'euros comme le fait Manchester United.
C'est pas piano-piano, c'est accordéon.
Non, mais il y va au niveau financier, au rythme qu'il avait annoncé.
Il y va au quel rythme, c'est-à-dire qu'il assure, il assure juste le budget, point. Voilà, après, il s'en sert.
Alexandre,
32-16. L'effectif qu'ils ont actuellement, ils pourraient quand même faire beaucoup mieux.
Ah oui. Bonjour Alexandre.
Ils n'ont pas un effectif sur le papier où on se dit c'est totalement dégueulasse. Donc ils pourraient quand même faire beaucoup mieux que ce qu'ils font actuellement.
T'es désespéré, toi, en tant que supporter du gym?
Bah moi, j'en peux plus. Ça fait 5 ans qu'on n'en peut plus. J'étais passé chez Rotten, il y avait Eric la dernière fois. J'y vais repousser plus ou moins le même coup de gueule. Ça fait 5 ans, depuis le départ de Favre en 2018, que c'est minable. Toutes les décisions sont prises à l'arrache. Changement de coach, sur changement de propriétaire, sur changement de coach. On se fait chier depuis 5 ans à regarder le club. Les décisions, elles ont ni queue ni tête. On empêche des joueurs.
T'as perdu un
là,
bon
on fait une gestion à l'anglaise. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi.
Enfin,
il pourrait mettre Zidane sur le banc, ça ne changerait rien. Du moment que le club n'est pas structuré, ça ne changerait absolument rien.
Non, mais c'est vrai que ce qui est curieux, c'est de virer Favre, qui ils en sont allés chercher il y a 2 mois, qui est compétent, ils le savent, puisqu'il a déjà réussi à Nice, qui est pour rien dans l'échec, parce qu'il il a ses joueurs à dernier moment, ils ont changé la moitié de l'effectif. Le plus inquiétant, c'est pas de prendre Pochettino, c'est de virer Favre, en vérité.
Oui, mais ça peut être assez excitant. Tu prends Pochettino, le premier match que tu joues, c'est le 1er octobre à Paris.
Après, c'est curieux ce qui se passe au-dessus, parce que c'est une entreprise, il y a aussi une personnalité Radcliffe. Dès qu'ils se sont mis sur du sport, ils ont gagné. C'était très, très, très carré. La voile, pam, c'est carré, ça gagne. Le cyclisme, ils prennent Ineos, ils rachètent, c'était Sky à l'époque, Vincent, ils gagnent le Tour de France. Je veux dire, quand tu ne viens pas du vélo gagner le Tour, c'est une belle entreprise quand même. Et là, le foot, ils n'y arrivent pas. C'est quand même particulier comme sport, le football.
C'est
hein.
Plus compliqué que de doper des footballeurs sur 10 mois. C'est plus compliqué
non,
que
tu vois, c'est
une anomalie. Oh, le vilain cliché.
Oh, le vilain.
Quand tu les vois arriver dans le foot.
C'est pas non solidarise.
Ce qui est surprenant, tu les vois arriver dans le foot, tu te dis, ils ont déjà réussi dans 2 sports importants, ils ont réussi à gagner. Et là, ils font l'inverse. C'est dingue.
Alexandre, merci pour ton appel au 32-16.
Bon, vas-y.
Oui, encore une fois, dis-moi.
Encore une fois, le mec, t'as l'impression qu'il a pris ce club pour assurer le budget par amitié par rapport à River, parce qu'ils avaient un bon.
Par amitié, il connaît pas River, il s'en fout.
C'est River qui va aller le chercher. Non,
oui, il va le chercher, mais il le fait. Il te dit, allez, je t'assure le truc pendant 1 an ou 2 ou 3.
Pour quel honneur, enfin. Voilà. Pour quelle raison?
Parce que le mec, il est pété d'oseille. Tu vois, c'est comme si moi, tu me dis, mais
il
met ton tourné.
Il y a différents investissements. Si t'investis à Nice, t'investis au niveau de Nice, si tu prends Chelsea ou Manchester, Vincent, Mohamed Merali, Père Cacher, les frères Kouachi, Ivan Colonna, l'Afghanistan, le Bataclan. Notre invité Marc Berriotte nous raconte tout. C'est un ancien judoka de l'équipe de France.
Il avait le bélier, là, il n'arrive pas à rentrer par la porte.
Il a fait 20 ans en tête de colonne du Raid.
Voilà, c'est des Raids. Là, je vais te dire un truc, papa.
Le Raid, c'est des Raids.
Ah, c'est des Raids. Oui. Ouais. Et avec, tu le sais, vraiment, avec le temps, les Raiders se déplacent. 15h24, le Super Moscato Show, on vient tout de suite.
15h-18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h29, on y revient au Mastic dans le Super Moscato Show. On est là avec Marion Bartoli. Ça va, ma petite poulette? T'es en forme?
Ça va très bien.
Oui, oui. C'est bien. On a bien commencé, là. On a vu quand même des trucs incroyables, des bandes, des Pochettino, tout ça. Eric Dimeco, Adrien Gouin, Pierrot, dans demi-heure.
Dans une demi-heure, Kylian Mbappé peut-il porter les Bleus tout seul? C'est notre débat. On reviendra bien sûr sur le conflit avec la FFF. Et puis, on parle de la Coupe du Monde, évidemment. Ça, c'est dans une demi-heure. Mais tout de suite, Vincent, un témoignage, un récit absolument unique.
RMC, le cri du cœur
du Super Moscato Show.
Nous accueillons Marc Verriotte, vainqueur du tournoi de Paris de judo, ancien membre de l'équipe de France, donc, et puis, après cette carrière, un membre du Raid policier d'élite. Salut Marc.
Bonjour,
bienvenue.
Bonjour. Merci de me recevoir.
Marc, ce qui est incroyable, c'est que Marc, il a signé un bouquin. Bon, franchement, c'est fascinant. C'est-à-dire qu'il raconte des opérations très, très dangereuses, très risquées sur des théâtres d'opérations, bah, les plus fous, hein, qui existent. Mais quand il voit Vincent Moscato, il a un grand sourire parce qu'il dit qu'il est fan depuis l'époque des rappeux tout. Non, c'est nous qui sommes passionnés, Marc.
Vous avez le même âge avec Vincent,
ouais, tous les deux. C'est une classe. Oui. C'est une classe. La classe d'incorporation, rappelez-vous, c'est l'année où tu rentres à l'armée. C'est une classe.
Ouais. Alors, Marc, tu racontes ta carrière dans un livre co-signé avec Karim Ben Ismail, journaliste de l'équipe spécialisée dans les sports de combat et également le rugby qu'on salue, qui s'appelle Au cœur du Raid, sous-titré 20 ans dans la colonne d'assaut du RAID. Dis-nous en deux mots, quel était ton boulot exactement ? T'es le policier qui est le premier sur les colonnes d'intervention d'urgence ?
Alors, pendant 20 ans, j'ai été en colonne d'assaut du RAID. En colonne d'assaut, ça veut dire opérateur de terrain. Et en effet, la deuxième partie de ma carrière, les 10 premières années, on est porteur de bouclier, et après on passe des spécialités. Et moi, les 10 dernières années, j'étais spécialiste effraction, c'est-à-dire ouvrir une issue, une fenêtre, une porte ou un mur. Et j'étais spécialiste explosif.
Donc, tu es en première ligne parce que tu dois faire ouvrir une porte grâce à des explosifs pour que tes coéquipiers, enfin tes collègues, interviennent ensuite. Ça a été le cas donc.
Bon, on dit première ligne, mais je suis pas vraiment en première. Le première ligne, c'est vraiment celui qui avec le bouclier.
D'accord.
Moi, en effet, je le double pour ouvrir la porte, mais après, je le laisse passer. Et je rentre en septième position, une fois que les deux premiers binômes sont rentrés.
Sont morts.
Je rentre en...
rigole pas avec ça.
Ah ouais, non, mais là, si. On a invité des mecs.
Si on fait entrer avec Eric, c'est premier. Possible.
Non, là... Tu nous as invité les serruriers.
Non, mais oui.
Tu nous as invité les serruriers. Le mec qui arrive avec les clés, nous rentre en septième.
Je rentre en septième position pour ouvrir une deuxième porte, s'il y en a une. Et pour renforcer la colonne d'assaut, voilà. Alors, le premier colonne, c'est lui qui prend les balles dès qu'il franchit la porte. Non, c'est pas moi. C'est pour ça que j'essaie pas de chipper cette appellation de premier de colonne, parce que je l'ai fait ça. Parce que quand tu es à l'effraction, de temps en temps, tu passes en colonne et tu
reviens. Mais ça va bouger, non le, parce que les mecs, ils lèvent pas tous le doigt pour porter le bouclier d'entrée, non. Alors, qui veut porter le bouclier en premier? Ils passent tous la tête.
Et parfois, c'est un peu biblique, c'est-à-dire que le dernier devient le premier. Hein, le premier binôme rentre quelque part.
À l'école, et ça ne m'est pas arrivé, ça.
Non, mais alors, tu racontes ça de manière très détendue en disant c'est le premier qui essuie les tirs des forcenés, mais c'est ta réalité. C'est-à-dire qu'un jour, donc tu interviens avec le RAID. Pour interpeller Mohamed Merah, et là tu te retrouves sous le feu des balles, tu es touché deux fois, raconte-nous.
Cette opération elle a duré 33 heures, mais on pensait au tout début faire une arrestation de police judiciaire classique, c'est-à-dire qu'on a eu l'autorisation de donner l'assaut à 3h du matin et on pensait qu'à 3h15 le terroriste allait être menotté dans son lit. Mais quand on a ouvert la porte de 15 cm, ça a tiré. Des premiers opérateurs ont été impactés. Un premier opérateur a été blessé, un trou rentrant, un trou sortant dans le genou. Après, il y a eu différentes ouvertures de feu. Et moi, au bout de 2h30 d'intervention, j'ai été blessé d'une balle en plein milieu du front dans le casque. Cette balle, finalement, elle m'a sauvé la vie parce que c'est du 11-43. C'est du très gros calibre, mais ça pénètre mal les blindages comme c'est gros. Donc ça m'a fait basculer, ça m'a fait vriller. La deuxième balle qui aurait dû me toucher pleine gorge m'a tapé l'omoplate. Je suis tombé dans les escaliers et voilà, ça s'est passé.
C'est ton casque en Kevlar qui t'a sauvé la vie.
Oui, exactement.
Donc alors, est-ce que tu peux nous décrire la tête qu'a ton casque après cette intervention ? Il y a un trou de combien de centimètres ?
Alors en fait, il y a deux choses. Il y a l'impact de la balle. La balle est rentrée dans le casque, mais elle n'est pas ressortie, sinon je ne serais pas là. Mais en même temps, il y a une deuxième déformation, un peu comme une balle de tennis ou un coup de batte de baseball. Et c'est ça qui m'a frappé, qui a fait une hémorragie cérébrale. Voilà, j'entendais tout à l'heure Moscato dire que c'était un équivalent d'un service de Federer, mais ça ressemble plus à un jeune Alumou lancé.
Ouais, ouais.
Ah, oui. Alors, tu prends cette balle en plein front, qui te fait vriller, ce qui te sauve la vie, sinon la deuxième balle t'aurait tué. Et à ce moment-là, tu perds pas tout à fait connaissance, mais t'es dans un état qui n'est pas un état de conscience.
Je tombe dans les escaliers. Là, je comprends pas trop ce qui se passe. J'entends un gros bruit dans ma tête. En fait, ça fait un gros tut pendant une quinzaine de secondes parce que ça fait un peu comme en boîte de nuit quand on sort avec un acouphène. Mais là, c'est l'onde de choc qui va directement du front aux oreilles et ça fait un grand tut dans ma tête. Moi, il vide son chargeur. C'est un chargeur de 7 balles. Il vide les 5 autres balles pour essayer de m'avoir en ricochet. Et il ne me touche pas, j'arrive à me protéger sous l'escalier. Et là, moi, je m'ausculte parce que normalement, en intervention, il faut se concentrer sur la tâche technico-tactique. Il ne faut pas se laisser aller aux émotions ou à se regarder le nombril. Mais là, je n'ai pas pu faire autrement. J'avais l'impression d'avoir une balle dans la tête, j'avais l'impression d'avoir une balle dans l'épaule parce que j'avais mal aux deux endroits. J'ai passé ma main pour aller chercher le sang, je n'ai pas trouvé de sang, c'était du sang fantôme. Finalement, je ne saignais pas. L'épaule, j'avais une balle dedans pour moi, mais elle fonctionnait. Et j'ai été ramené à la vie, enfin à l'intervention par un camarade qui dit c'est Nemo qui hurle Marco est touché, faut aller le chercher. Et là je me suis dit mince, ils vont passer devant les balles et ils vont s'en prendre à ma place. Et donc là ça m'a ramené et j'ai appuyé sur ma radio pour dire non, venez pas me chercher, je vais réussir à m'exfiltrer seul. Je suis touché, c'est un tir visé, mais je vais bien.
Et c'est parce que tu étais un peu en contrebas de l'escalier qui menait à la porte que ça t'a fait un abri qui t'a aussi sauvé la vie. Tu racontes dans le bouquin que malgré toute votre préparation, tout votre professionnalisme, tous les essais que vous faites, toutes les mises en condition, il n'y a jamais aucune opération qui se passe comme le plan était prévu ou comme vous avez déjà fait en exercice. Et que tout se passe sur l'instant en fin de compte, et qu'il faut avoir cette capacité d'adaptation presque ultime, sans quoi on est mort en fait. C'est l'exemple de l'hypercachère que tu dois ouvrir pour le coup en tant qu'artificier, et une information cruciale qui est connue des services de police n'est pas parvenue jusqu'à toi. Même ça arrivait. Est-ce que tu peux nous raconter ?
Alors, je vais te la raconter, mais une intervention de police c'est comme un match de rugby. C'est-à-dire que on essaie de tout automatiser, on automatise nos comportements, on automatise nos pensées, on automatise nos émotions, même on travaille tout ça. Mais pourquoi on automatise ? C'est pas pour devenir des robots, parce qu'on peut pas gagner un championnat de judo, un match de rugby ou une intervention en étant un robot. Parce qu'à chaque fois, l'opposition, elle fluctue. Et voilà. Et donc en fait, nous, si on travaille des automatismes, c'est pour libérer de la place le plus possible dans le cerveau, pour gérer l'imprévisible et donc l'adaptation. Et donc, en fait, on ne fait que s'adapter. On n'y arriverait pas si on n'avait pas à travailler tous nos automatismes. Mais voilà, on automatise le plus possible pour avoir de la place dans le cerveau pour gérer l'adaptation. Donc, en fait, non, on n'obéit pas à des règles. On s'adapte seconde par seconde.
Et qu'est-ce qui s'est passé à l'hypercachère ? Donc, tu dois ouvrir une voie et ça ne se passe pas du tout comme prévu.
Oui, alors bon, c'est compliqué. Tu mets directement le doigt sur un... En intervention, on apporte tous notre pierre à l'édifice. Bon, je fais un petit préliminaire, parce qu'il n'y a pas de grande perf sans préliminaire, mais les secrétaires apportent leur pierre, la logistique apporte sa pierre, les négociateurs apportent sa pierre, les cadres apportent leur pierre, tout le monde apporte sa pierre. À la fin, on fait tous des erreurs et de temps en temps, voilà. Alors moi, je suis monté sur la porte en pensant qu'il n'y avait pas de barre, ce qu'on ne m'avait pas dit, parce que les postes de commandement ont énormément de choses à penser, des relations à droite à gauche, des réglages avec les pompiers, avec les démineurs, avec tout ça. Mais simplement, moi qui étais avec mes camarades, avec le côté groupe d'assaut, on n'a pas été informé qu'il y avait une barre. Donc au dernier moment, il a fallu que je rajoute de l'explosif. C'est-à-dire qu'on a des prémontages. Les prémontages, on les manipule au dernier moment, on enlève un peu d'explosif à tel endroit, on en rajoute à d'autres. Tout ça se fait un peu comme une recette de grand-mère, parce qu'il n'y a pas, pareil, pour ouvrir une porte, il n'y a pas une méthode bien, bien stricte. Il faut s'adapter à la porte, qui est toujours changeante. Là, c'était une porte très difficile, parce qu'elle donnait sur la réserve, donc c'est une cible pour les cambrioleurs. Et elle était tirante, donc ça, c'est embêtant aussi, parce que bien sûr, une porte tirante, c'est plus difficile à défoncer qu'une porte poussante. Donc, au dernier moment, on m'a appris qu'il y avait une barre, donc il a fallu qu'on manipule de l'explosif pour nous adapter à ça. Et puis aussi...
Une barre qui barre les deux portes.
Une barre de renfort.
Une barre de renfort,
derrière.
Ouais, bien sûr.
Derrière.
Ouais.
Le poste de commandement le savait parce qu'ils avaient eu accès à un moment donné aux vidéos de sécurité.
Ouais,
où on voit le terroriste qui demande à un otage de mettre la barre.
Ouais.
Et puis je pense aussi qu'ils avaient le témoignage du
gérant ou
c'est ça. Voilà. Et puis aussi l'explosif, moi quand je donne l'assaut, enfin quand je monte avec mon camarade pour ouvrir la porte, on n'est pas non plus au courant que le terroriste dispose de 2 kilos d'explosifs. Pareil, c'est une information que j'aurais aimé avoir parce que tu prends pas la même distance de sécurité. Moi j'ai ouvert la porte avec mon camarade avec une dose d'explosif bien que je connaissais. Mais plus
de. Tu es obligé de la gérer par rapport aux otages aussi.
Oui.
Tu ne peux pas balancer 10 kilos de machin parce que tu as tué des otages.
C'est ça.
Ouais.
C'est ça. Déjà, l'explosif, une porte, l'air de rien, c'est pas la dose d'explosif. C'est-à-dire que des fois, mettre trop d'explosif, ça ne marche pas non plus. Tu vas encastrer la porte dans le montant et puis personne ne va pouvoir y passer. Donc il faut la dose juste, bien placée. Et parce que, surtout à Paris, le moindre explosif en trop, c'est de l'énergie qui, de toute façon, va vouloir croquer quelque chose. Mmh. Il va vouloir croquer soit le mec de la colonne d'assaut, soit les fractions, soit les vitres environnantes, soit l'otage. Et donc, cette énergie, il faut la maîtriser comme une petite vieille qui fait sa soupe, parce que sinon...
Alors, cet épisode, il est important. Alors, évidemment, tous tes récits sont fascinants, mais celui-ci, il montre aussi que parfois, il y a des gros dysfonctionnements dans le commandement. Et ça fait partie d'une des choses que tu racontes dans ton bouquin. qui ont aussi apporté un peu de lassitude et peut-être précipité ton arrêt. Bon, alors je vous invite à aller lire tout ça dans le livre de Marc, Au cœur du raid. Il y a mille choses à raconter, mais je crois que Marion a une question particulière à te poser, Marc.
Oui, bonjour Marc. Moi, ce qui m'intéresse énormément dans votre discours, c'est votre capacité non seulement d'analyse, mais surtout de gestion du stress. Et vous, finalement, vous avez deux zones d'évolution assez distinctes que vous appelez par une zone de confort et une zone de haute pression avec une pyramide verte et une pyramide rouge. Et vous exprimez le fait que finalement, même une personne, on va dire lambda, dans son quotidien, qui peut être soumise à un stress, à son travail, etc., peut utiliser un petit peu les mêmes systèmes de fonctionnement que vous avez, vous. Vous êtes soumis à un stress extrêmement élevé, bien évidemment, le plus haut, parce que vous avez la vie en jeu de personne. Est-ce que vous pouvez justement nous décrire un petit peu ces pyramides différentes et comment nous, dans notre quotidien, ou les gens qui nous écoutent, peuvent apprendre un petit peu mieux gérer leur stress ?
Je pense en effet que on ne fonctionne pas de la même manière en zone de confort et en zone de haute pression. Et que nos habiletés, qu'elles soient physiques, mentales ou techniques, on ne les règle pas pareil dans les deux cas. Ces deux zones sont régies par des règles qui sont totalement différentes. Alors, il faut connaître ces règles pour pouvoir s'y adapter. Vous me posez une question sur l'adaptation à la zone de haute pression, c'est-à-dire au stress et toutes ces choses-là. Alors ça me fait penser que moi j'ai lu votre biographie et dedans, eh ben un des éléments pour vaincre le stress, quand vous dites que quand vous avez une période de doute, vous pensez à votre race que vous avez fait à Wimbledon et ça vous relance. Eh bien moi j'ai la même chose quand on me propose quelque chose de difficile à faire et que je me sens dépassé, je me dis mince, mais attends Marc, t'as gagné le Tour de Paris, t'as été bon sur Vincennes, t'es pas une merde, donc tu vas réussir à faire cette voilà. Bon bah ça c'est des choses, ça c'est un rapatriement de confiance, là on joue sur la confiance, mais c'est bien des choses qui sont faites pour s'adapter au niveau.
Ça reste dangereux si tu regardes, surtout si tu regardes
Marc, tu verras rien des vainqueurs du Tour de Paris de judo.
Dans ton bouquin j'ai vu que t'as été exposé à des grandes peurs, mais la plus grosse peur que tu avais, c'est de balader à Marseille après 23 heures.
Il y a des témoignages incroyables. À Trac, Yvan Colonna aussi, on est parfois battu juste par le terrain et même par des moustiques. Ça peut arriver, même quand tu es positionné du raid, Marc.
Ouais, ce bouquin, je raconte mes interventions, raconte les coulisses et puis ce qui se passe dans la tête d'un opérateur pour rester efficace, comme dit Marion, en zone de haute pression. Mais je raconte aussi toutes les facettes que peut avoir des opérations au raid. Et en effet, la Corse, l'investigation, on fait de la protection, on fait de l'investigation, on fait de l'intervention et c'est riche en aventures et en anecdotes.
Faut être costaud parce que l'équipement, il pèse combien ?
Alors, moi, je pesais 80 kilos en tenue noire. Je pesais 120 kilos avec mon matériel de protection balistique et mon armement. Et je pesais 150 kilos avec mon matériel effraction d'urgence.
Voilà, donc si vous êtes tenté par une carrière au raid, il faut bosser.
Mais ça, c'est 120 kilos
en slip. On le sait parce que
c'est des slips à faute, ça, qui met.
Merci beaucoup, Marc. Donc, à lire, écrit avec Karim Ben Ismail, au cœur du raid, aux éditions Les Arènes. Bon, ça se lit très rapidement parce que ce sont des récits totalement.
C'est un honneur d'être ici. Merci.
Honneur de te recevoir. Je veux te dire que là, tu nous as fait plaisir.
Merci Marc. Merci. Et à bientôt sur RMC.
On est tous admiratifs.
C'est l'heure d'Apostruf.
Sans transition, Apostruf.
Après, on enchaîne avec Jérôme Rotten, c'est pas pareil.
La culture. Allez, pour les truffes. On va en venir au lycée, Vincent, ça va pas nous faire de mal.
Un peu de lycée.
Si. Oui, lycée.
Moi, j'ai arrêté à l'ardoise, je peux pas t'en parler. 15h44, le Super Moscato Show, on vient tout de suite.
RMC. 15h18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h48, le Super Moscato Show. C'est le journal moyen d'Adrien Aigouet.
Et non, c'est la culture
perturbée.
Jingle préféré.
Dans le Super Moscato Show.
Je vous l'avais dit, rendez-vous esplanade de la Barbacane, c'est facile à trouver, il y a un canon. Moi j'en vois deux.
Ouais. Et voilà Stéphane Thébault, meilleur animateur du monde.
Mario, tu le connaissais, ça, là, oui.
Qui avait ajouté, oui, effectivement, je suis un peu séducteur. Ça n'a pas marché parce que la dame a enquillé sur l'explication du canon et de la place.
Ouais.
La culture pour les truffes, apostruffes tous les jours à 15h49, parce qu'il n'y a pas que le sport dans la vie, l'actualité de l'éducation nationale, monsieur Moscato. Oui.
Ça va être beau, ça.
Nous sommes de retour au lycée, nous sommes à Dijon. Information du journal régional qui s'appelle Le Bien Public, qui est diffusé en Côte d'Or, journal local. Article assez étonnant. Dijon, la sonnerie du lycée Saint-Joseph fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'est une mode dans les lycées, c'est comme ça aujourd'hui. Oui. Parfois, certains remplacent cette sonnerie, là, Vincent. La sonnerie de Tonton.
Ah oh, ça dépend. Celle-là, ça... j'aimais quand ça démarrait à la fin du cours.
Ah ouais, mais parce que ça, au lycée, c'est pour changer de cours.
Ah oui, c'est pour changer.
T'étais bien en français, t'aimes bien le français, puis là, il faut aller en maths. Là,
c'est moi, c'était toujours, dès que j'entends ça, je t'entrais de l'école.
C'est l'histoire géo.
Donc, on remplace cette sonnerie dans certains lycées par des bouts de chansons, des extraits de musique qui durent 10-15 secondes. Ouais. Pour rendre un peu le changement de classe un peu plus joyeux. Et au lycée Saint-Joseph à Dijon, la direction du groupe scolaire explique que la nouvelle chanson a été choisie par les élèves, les professeurs et le personnel de l'établissement, une sorte de conseil du lycée. Et donc, écoutez la nouvelle sonnerie du lycée à Dijon, vidéo publiée par le journaliste de Bien Public. Ça y est, c'est la fin du cours de français, on doit changer pour aller en classe de maths.
mais ça c'est de la, voilà, ça, c'est voilà. La musique, ça bah, c'est du choix.
Là il y a un bon lycée de cadre, je te le dis là. Et donc, il y a des calmates, je m'agirera.
La nouvelle sonnerie dure 12 secondes, c'est Van Halen, Jump, la musique d'entrée des joueurs mais au stade Vélodrome. C'est quand même sympa, c'est original. Et ils changent régulièrement, la direction explique qu'ils ont 4 ou 5 chansons avant chaque début d'année scolaire. Il y a un vote, et elle précise, parce que la direction sait que c'est sensible.
Oh, c'est sympa, oui.
Nous ne sommes affiliés à aucun club de foot, même si nous valorisons le sport de manière générale, parce qu'ils savent que si choisit l'OM, alors, ça peut faire des polémiques et des clashs. T'en rends fier, Eric, ton club qui inspire les lycées.
C'est rigolo.
C'est la transmission. C'est la transmission.
Oui,
voilà. Tu sais, il y a magnifique ce stade à Vélodrome. Il y a des fétous partout au début. Là,
ouais.
Tu disais les fétous. C'est les tifos version Moscato.
Les tifos,
les fétous quand même.
Partout, hein.
Des fétous.
Bon, bravo, ça change un peu le lycée à Dijon.
C'est bien, ouais.
Ça suscite beaucoup de réactions sur les réseaux.
C'est génial, pas génial, mais ça change. C'est sûr que c'est mieux que la sonnerie habituelle. Qui
le petit jeune supporter du PSG doit être content.
Ah oui,
somme.
Mais ça le motive. Il est en terrain hostile. Je rêve d'un lycée ou alors du changement de cours. On entendrait ça, Eric. Toi, je sais que tu en rêves.
La route est longue.
Voilà. C'est long les études. Tu connais ça, Marion?
Faut être non, arrête. Non, allez.
C'est bon.
C'est Michel Gronin.
C'est le cousin de Michel Jonas. C'est Michel Gronin. C'est Vincent.
On enchaîne.
C'est Vincent, il y a une dizaine d'années.
Oh non, je sais, Mario, c'est pas moi, Mario. Absolument pas, c'est pas moi.
T'imagines, au lycée, on écoute.
Il a fallu s'écouter, s'occuper, pardon, après la carrière de rugby. Hein.
Tu sais
écoute,
que là,
attends, écoute le solo.
Alors, j'ai un deuxième extrait où Vincent monte dans
le rugby.
Allez, vas-y.
J'en peux plus.
Ça, c'est au changement de classe, on passe de la géo à la bio. C'est parti.
Tu ouvriras ton cœur.
Écoute.
Mérite ce bonheur.
C'est Vincent course Adrien là.
Bon, appel à tous les lycées, si vous voulez changer de sonnerie, vous m'appelez, je vous donne la chanson.
Excusez-moi. Ça, c'est pas si mal. Hein.
Il y a des lycées à Gaillac, il y a des lycées à Gaillac, vous croyez aussi. Il y a des lycées à Gaillac.
Bah, t'es fou quoi.
Ah, ben, voilà la sonnerie du lycée Gaillac, ça sera.
Il y a que les cancres, il y a que les cancres, il y a lycée. Est-ce qu'on peut rappeler ma curette pour exposer la gueule d'Adrien, s'il vous plaît?
Non. Oh, ça marche pas trop de moi parce que. Allez, sans transition.
T'imagines, Eric, en entrant en première ligne avec le bouclier. Adrien est fait couiller derrière qui le pousse. Toc toc toc, monsieur, est-ce que vous voulez sortir?
Oui, mais ce monsieur, il ne savait pas faire un peu Struff, par exemple. En transition, art contemporain.
Aujourd'hui, l'art ne répond pas aux questions, il les pose. L'art contemporain est comme un nouveau langage.
On accueille un nouvel artiste dans Apostruche après Cantona, après Jean-Pierre Rive.
Ouais.
C'est Brad Pitt. Peut-être que tu le connais, Marion, toi qui connais Tom Cruise.
Lui, il suffit pas d'être beau, d'être le meilleur acteur.
Pour la
du
première
monde.
Fois, il expose ses sculptures en Finlande au musée d'art Sarah-Hyden de Tampereire. Troisième ville de Finlande.
C'est quoi, des bronzes?
Il a 58 ans, il a exposé 9 œuvres. C'est une expo commune avec un artiste britannique qui est très connu, avec une star australienne du rock, Nick Cave. Alors, dans ses œuvres, apparaît un grand panneau en plâtre moulé représentant une fusillade ou encore une série de sculptures en silicone en forme de maison, chacune frappée par des balles de calibre différent logées dans le plastique. Il a déclaré, Vincent, Brad Pitt, en ce qui me concerne, il s'agit d'introspection. Il s'agit de savoir où je me suis trompé dans mes relations, où j'ai fait un faux coup. Alors bon, allez voir sur les réseaux sociaux, moi je t'ai imprimé parce que comme.
Non, mais ça, tu sais comment c'est fait, tu sais quand il a fait ça, c'est ça.
Je suis pas sûr que tu aies le Google devant tes yeux, Vincent.
Oh là là.
Voilà.
C'est dope. Oh non, mais c'est pas possible. Ça se vend ces merdes-là quand même. Non,
c'est terrible,
possible.
Brad Pitt se lance
dans la. Il a fait ça. En cure, parce qu'il a fait une cure lui aussi, il est passé chez. Ouais,
mais oui. Alors, tu
vas y
prendre.
Oh non, mais regarde.
Tu le prends à l'envers là, tu le prends à l'envers.
C'est des impacts de. Non,
c'est nul.
Tu l'as pris à l'envers.
Si je le vois, je le gifle. Si je le vois, je le gifle.
Alors, figurez-vous, c'est nul, on est d'accord.
Non, mais après, ça, il y a un mec qui va mettre 200 000 dollars sur un truc et ça va vraiment
pas. Ça, c'est escroquerie. Mais tu sais quoi, sur les trois que je t'ai proposé, il y a deux, c'est Jean-Pierre-Yves. Allez, débrouille-toi.
Allez, recours.
Il te cherche. Vincent, te laisse pas faire.
Ils sont de nouveau sortis du studio et Vincent est de nouveau en train de le courser pour lui mettre des gros coups de latte. Vincent, bah c'est pas grave, c'est ton avis, c'est de l'art. Tu peux avoir une sensibilité différente de celle de Jean-Pierre.
Jean-Pierre, quand même. Alors, Jean-Pierre, c'est quand même c'est autre chose.
Eh ben oui.
Tu sais que c'est pas si mal la deuxième, quand même.
Ben c'est Brad Pitt.
La deuxième.
C'est épuré.
Ça, c'est épuré, ouais. Non, mais Brad Pitt, ouais, il était pas au mieux, donc ils ont dû lui faire de la poterie.
Non, mais arrête de propager comme ça des rumeurs sur Brad Pitt. Et tout va bien pour Brad.
Si, il a fait de cure.
Comment tu le sais pas, Pierrot?
Non, mais je ne dis pas, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, Pierrot. Je ne dirais pas ça. S'ils étaient cachés.
Pierrot.
Touchez pas à Brad. Je vous rappelle d'ailleurs que Marion connaît.
Toi, je suis sûr que Brad, tu vois, même si t'es pas, tu
tires un coup dans tes garages comme ça.
Entre lui et Mélenchon, Pierrot.
Ah non, mais il n'y a pas photo là quand même.
Dans un instant, Mbappé peut-il porter les bleus seul? 32-16 pour participer au débat. C'est le Super Moscato Show. A tout de suite.
Allez, on revient tout de suite dans le Super Moscato Show.
RMC, 15h18h, le Super Moscato Show.